C'est en rapport avec ce qu'on a vécu ce matin d'une certaine manière, mais j'aimerais dénoncer un piège. Dénoncer un piège, vous savez, pour capturer des animaux, des souris, on met des pièges à souris. Qui c'est qui n'en a pas vu de ces pièges? Tout le monde a vu un piège à souris. Peut-être qu'il y a des gens qui sont coincés le doigt dedans déjà. Voilà, donc les pièges, il faut qu'il y ait, pour réussir un piège, il faut qu'ils soient cachés déjà. Il faut qu'ils soient cachés. Dans l'espoir que l'animal tombera dessus, il faut qu'il y ait un leurre aussi. Alors le fromage, ou il faut qu'il y ait un leurre pour attirer le poisson ou l'animal. Et donc ces deux stratégies, la cachette et le leurre, sont des stratégies que l'ennemi utilise. Et je dirais que j'aimerais parler de ce piège de l'offense. Et l'offense n'est pas mortelle en soi, si elle reste dans le piège. Mais si nous la ramassons, comme la souris ramasse le fromage, si on la consomme, si nous en nourrissons nos cœurs, alors on est offensé. Et les gens offensés produisent des fruits tels que blessures, colère, indignation, jalousie, ressentiment, querelle, amertume, haine, envie. Et ceux qui ramassent l'offense, eh bien, il y a vraiment un puits qui s'ouvre. On en parlait des pots avec des graines, mais là, on ouvre un pot pour d'autres sortes de semences. Et souvent, ce qui est assez intéressant, c'est que tout le monde en a été offensé, hein. Qui ne l'est pas. Donc c'est vraiment quelque chose qui concerne tout le monde. Mais souvent, quand on est offensé, on ne s'en rend pas compte. En tout cas, on ne veut pas le reconnaître. Il m'est souvent arrivé de parler à des gens, de dire, écoute, là, il y a une offense. Ah non, non, il n'y a pas d'offense. Non, il n'y a pas d'offense. Non, il y a assez de maturité en Dieu. On ne veut pas reconnaître l'offense. Et pourtant, tout dans notre vie parle plus fort. Moi, j'ai pas envie de parler, j'ai pas envie de celui-là, etc. L'offense, elle est vraiment à reconnaître, et très souvent on est inconscient, c'est un piège caché. On est inconscient de sa condition parce qu'on est omnibulé par quoi ? Ben par le tort qu'on nous a fait. C'est ça qui nous omnibule, alors on voit que ça, et on oublie de reconnaître qu'on a été offensé. Et beaucoup de personnes, par rapport à la parole de ce matin, aux dons, aux appels, beaucoup de personnes sont incapables d'assumer correctement leur appel, en raison des blessures et des peines que les offenses ont provoquées dans leur vie. Et maintenant, il y a un principe qui est vraiment important, c'est que notre réaction à l'offense va déterminer notre avenir. Notre réaction à l'offense va déterminer notre avenir. On verra que c'est dans le plan de Dieu que chacun traite avec l'offense. Chaque homme de Dieu dans la Bible n'a aucun qui n'ait pas vécu l'offense. Aucun. Jésus le premier. Donc ça fait partie, l'offense, de la marche avec Dieu. Mais le problème, c'est qu'est-ce qu'on va faire avec ? Et donc, c'est notre réaction qui va déterminer notre avenir et notre destinée. On peut rester piégé dans l'offense pendant 20 ans, 30 ans. Moi, j'ai connu des gens, vraiment, leur vie entière s'est arrêtée à cause d'une offense. Et plus rien, plus de projet, plus rien, plus rien. Renfermement, centré sur toi, sur soi, etc. Donc c'est pas rien l'offense. Et le plus souvent, malheureusement, mais c'est souvent comme ça, c'est souvent le cas d'un autre croyant, d'un autre chrétien qui nous a blessés. Et en fait, il n'y a que ceux qu'on aime qui peuvent nous blesser. C'est les plus proches, c'est ceux qu'on aime qui nous blessent. Mari, épouse, enfant, ami, pasteur. Voilà, c'est les gens les plus proches, c'est ça. Alors dans le psaume 55, il est question de cette offense et Jésus, on va se rappeler l'histoire de Jésus avec Judas, mais lorsqu'il dit « Ce n'est pas un ennemi qui m'outrage, je le supporterai », c'est David, le roi David qui parle. « Ce n'est pas mon adversaire qui s'élève contre moi, je me cacherai devant lui, mais c'est toi que j'estimais mon égal, toi mon confident et mon ami. » Ensemble, nous vivions dans une douce intimité. Nous allions avec la foule à la maison de Dieu. Le mot grec pour offense, on le trouve dans Luc 17, par exemple, verset 1, c'est scandalon. Et scandalon, à l'origine, ce mot se réfère à la partie du piège, c'est vraiment intéressant, hein, à laquelle l'appât était attaché. Donc ça, c'est scandalon. Hein. Et ce mot signifie littéralement poser un piège sur la route de quelqu'un, être un scandale. Hein. Ne soyez pas une occasion de scandale, ça veut dire ne soyez pas un piège pour les autres. Donc vraiment, c'est ça. Dans 2 Timothée 2, versets 24-26, « Il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire être affable pour tous, propre à enseigner, doué de patience. Il doit redresser avec douceur ses adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité, et que revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable, qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. » Donc vous voyez, il y a des pièges qui sont là. Et le Seigneur nous dit, un serviteur de Dieu doit se dégager des pièges. Ça n'existe pas une vie sans piège. Ça n'existe pas, on aimerait bien. Là-haut, ça sera une vie sans piège. Mais aujourd'hui, nous vivons une vie sur terre, et dans la terre, il y a des pièges. Et le serviteur de Dieu doit se dégager des pièges. Le premier piège, c'est l'offense. Alors, ceux qui tombent dans ce piège, sont souvent inconscients. On est souvent inconscients de ce qui nous a frappé. Enfin, ce n'est pas toujours le cas, mais c'est comme un peu le fils prodigue. Il a quitté la maison du père. Tout semble bien aller, mais il a fallu un moment où il se réveille. Il se réveille, il prend conscience qu'il est loin de son père et qu'il n'est pas bien là où il est. Eh bien, l'offensé, il y a un moment, il faut qu'il prenne conscience. Ça ne va plus, ça ne va plus. Pourquoi je réagis comme ça? Pourquoi tout le monde m'énerve? Pourquoi j'ai envie de voir personne? Et ça, attention, c'est vraiment les symptômes de l'offense. Alors, il y a deux catégories parmi les personnes offensées. Il y a celles qui ont été traitées injustement, et il y a celles qui croient qu'elles ont été traitées injustement. Alors, le remède, c'est quoi? Qu'est-ce que nous propose la Bible? Dans l'Apocalypse, c'est Jean, mais on peut dire c'est Dieu au travers de Jean, s'adresse à l'église de Laodicée, qui se croyait riche, belle, alors qu'elle était malheureuse, misérable, aveugle et nue. Qu'est-ce que dit le Seigneur là? Il dit, voilà, tu vas acheter de l'or. Il faut que tu achètes de l'or. Il faut que tu achètes de moi de l'or éprouvé par le feu. C'est ça le remède. Alors le remède à l'offense, alors on va parler du pardon, tout ça, mais acheter de l'or. Alors ça veut dire quoi? Vous savez, l'or en soi, il est vraiment l'or, surtout qui a été brûlé, il est très mou, il est très malléable. Il est très malléable. Il n'y a pas de corrosion, il n'y a pas d'autre substance quand il a été éprouvé par le feu. Et quand l'or est mélangé avec d'autres métaux, on pense par exemple au nickel, au fer, etc., il devient dur, comme par hasard. Quand il y a un mélange, ça devient dur. Notre cœur devient dur quand il est mélangé avec d'autres choses. Et l'or mélangé, eh bien, c'est quelque chose qui est beaucoup moins malléable, beaucoup plus corrosif. Et ce qu'on appelle, on appelle ce mélange, l'or, fer, or, nickel, un alliage. Et donc cet alliage, c'est beaucoup plus solide, c'est dur. Mais nos cœurs ne sont pas appelés à être des alliages. Nos cœurs sont appelés à être de l'or. Achète de l'or, nous dit Dieu. Et plus le pourcentage de métaux étrangers est élevé, plus l'or devient dur. Et plus à l'inverse, si on enlève les scories, le fer, le nickel, tout ça, l'or va devenir mou. On voit un parallèle avec notre cœur, et dans Hébreux 3, verset 13, Hébreux 3, il est dit, « Les cœurs s'endurcissent par la séduction du péché. » Et vous savez, quand on est offensé et qu'on nourrit l'offense, on pêche. Et si on ne prend pas des mesures à l'égard de l'offense, eh bien, on produira d'autres fruits du péché, et on les a cités, amertume, fureur, rancune. Et ces substances sont ajoutées à l'or de nos cœurs et durcissent nos cœurs et nous rendent incapables ensuite d'entendre la voix de Dieu et incapables de voir nos frères et sœurs comme Dieu les voit. Et ça, donc le raffinage de l'or, c'est tout un procédé. Et vous savez, pour raffiner l'or, alors je me suis un peu renseigné, il paraît qu'il faut le moudre en poudre. On commence à moudre l'or, on fait de la poudre. On mélange ensuite la substance appelée un fondant. Alors on mélange ça avec un fondant. Le mélange est ensuite placé dans un four fondu sous une chaleur intense. Et les alliages, les impuretés sont attirées dans le fondant et remonte à la surface. Et l'or, lui, qui est plus lourd, eh bien, il reste au fond. Et donc, les impuretés, tout ça, on les enlève et du coup, le métal est pur. Dans Ésaïe 48, il est dit, verset 10, « Je t'ai mis au creuset, mais non pour retirer de l'argent. Je t'ai éprouvé dans la fournaise de l'adversité. » Et dans 1 Pierre 1, verset 6-7, il est dit, « C'est là ce qui fera votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, » alors c'est impressionnant, « puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire, l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » Une fois, on avait enseigné là-dessus, mais vous savez, les fils de... lorsque Jacob et avec Léa et Rachel, et Léa, il a eu ses filles, Léa, il aimait pas trop, il aurait voulu Rachel tout de suite, mais il a eu des enfants de Léa. Chaque enfant de Léa, bon, c'est pas le sujet, mais c'est un caractère de Dieu qu'il acquiert ainsi. Et à la fin, quand il la voulait pas, Léa, il voulait Rachel, et puis il avait Léa. Il y a des situations dans notre vie, on veut Rachel, et puis on n'a pas Rachel, on a Léa. Et Dieu dit, qu'est-ce que tu fais avec Léa? Tu lui mets un coup de pied et tu la balances dehors? Ou alors tu comprends que c'est le plan de Dieu pour porter certains fruits dans ta vie qu'aucune autre circonstance ne pourrait produire? Les situations Léa sont les situations qu'on n'a pas choisies, ce sont les circonstances qu'on n'a pas choisies, mais que Dieu a choisies pour nous, et il nous regarde dans la circonstance parce que cette circonstance-là, ce sera la seule qui pourra nous faire produire du fruit. Et Léa a donné un des fils qui s'appelait Judas. Et Judas, c'est la louange. Et quand il y en a des situations, quand on arrive à être dans ce cœur avec Dieu, toute circonstance contraire, ça amène finalement la louange. Alors si l'ennemi, il est là, à chaque pot de banane qu'il te met, tu as la louange qui monte, il va arrêter un moment, vous savez. Il va arrêter. Il a dit, c'est plus marrant. C'est plus marrant. Ça me rappelle, moi, sur le port de Toulon, j'étais jeune, j'étais tombé, j'avais vu des gens tomber sur une peau de banane, j'ai dit, tiens, je vais en mettre une. Donc j'ai mis une peau de banane sur le port et je me suis planqué pour voir le premier qui tombait. Et puis personne n'est tombé, personne, tout le monde évitait. Et au bout d'un moment, je me suis lassé, je suis parti, quoi. Alors, c'est... voilà, bon, ça, il ne faut pas le répéter, hein. Voilà. Donc, l'ennemi, quand il te met une peau de banane et que tu restes dans la louange, il en a marre. C'est pas marrant. C'est pas marrant. Voilà, alors, vous savez, Dieu éprouve par les afflictions, les épreuves, les tribulations dont la chaleur sépare les impuretés, par exemple l'intransigeance, hein, les querelles, l'amertume, la fureur, l'envie, tout ça. Et ça met le caractère de Dieu dans nos vies. Et vous savez, le péché se cache facilement quand on n'est pas sous le feu de l'épreuve et des afflictions. Dans les périodes de prospérité, de réussite, mais même quelqu'un de très méchant, il peut paraître très gentil. T'as remarqué ça? Quand tout va bien, l'argent il tombe, les fins du mois, tu payes toutes tes factures, tout va bien. Même un méchant peut être très sympa. Très sympa. Mais quand ça commence à chauffer, alors là, il y en a, même un tout petit point, paf, ça y est, ça va plus. Et là, l'impureté ressort. Alors, c'est ça le principe. Le feu de l'épreuve, Dieu dit, c'est moi qui l'ai mis, c'est moi qui l'ai permis, pour que l'impureté ressorte. Alors, en fait, un chrétien mûr est un chrétien que tu peux mordre. Tu peux lui dire du mal de lui. Et il ne mord pas en retour. D'accord? Donc ça c'est fort, ça. Alors, je ne sais pas, quelques témoignages pratiques, mais tout le monde, si on donnait la scène ici pour le témoignage des offenses, il y en aurait beaucoup à dire. Mais j'en donne quelques-unes. Avec Manuela, quand on s'est converti, on essaie de rejoindre à Lyon une communauté chrétienne. Et puis nous, on était d'anciens catholiques, on ne savait pas ce que c'était, les protestants, les évangéliques, tout ça. Alors on a rejoint une communauté catholique charismatique. Et puis c'est là que j'ai appris à lire la parole pour la première fois, à grandir un peu pendant quelques temps. Il y avait des très bons temps de louange, etc. Puis à un moment, je posais trop de questions sur le baptême, le célibat. Je dis, mais où c'est ça dans la Bible, tout ça. Et je les ai tellement énervés, ils m'ont dit, maintenant ça suffit. Vraiment, hein. Il me dit, vous choisissez, hein. Si vous restez ici, c'est fini toutes ces questions. Hein. Alors avec Manuela, j'ai dit, oh ça sent pas bon, ciao, hein. On s'en va. Et ils nous ont dit, Luc et Manuela, c'était une grande communauté, je ne dis pas le nom, mais des milliers de gens. Hein. C'est des brebis galeuses, il faut que personne les fréquente. Et dans mon cœur, les catholiques, je peux vous dire, ça commençait à m'énerver. Hein. M'énerver les catholiques. Hein. Et puis alors, quand j'allais dans le milieu évangélique, alors c'est pas des très amoureux des catholiques non plus. Alors du coup, on était là, ouais les cathos. Puis moi, ça me gonflait, je me disais, c'est... Alors j'allais fréquenter des gens qui pensaient comme moi. Et les offensés, ils vont toujours fréquenter les offensés. Ils ont tendance à fréquenter les offensés. Parce que, ouais, on peut parler, et puis, vous voyez, on peut dire du mal un peu, critiquer un peu, puis ça fait du bien parce qu'ils pensent comme moi. Et ça, c'est terrible. Et à un moment, j'étais à Versailles, je faisais mon service militaire, puis j'avais une perme. Et je lisais un livre de Urquhart, je crois. Et au travers de ce livre, je ne me rappelle plus exactement le témoignage de ce livre, mais Dieu me dit, si tu ne pardonnes pas aux catholiques, je ne pourrai pas t'utiliser. C'était clair et net. Je ne pourrais pas t'utiliser. Ouf, alors là, j'ai dit, bon ben, Seigneur, alors là, c'était immédiat, hein, Seigneur, pardon pour mon amertume, j'ai été offensé, mais je te demande pardon, Seigneur, et je bénis les catholiques, etc. Deux jours après, un coup de fil d'Alsace. Est-ce que vous ne viendrez pas enseigner en Alsace la religion? Ça ne vous intéresserait pas? J'ai dit, tiens, c'est comme bizarre. Et c'est comme ça qu'on est arrivé en Alsace, avec Manuela. Et c'est comme ça qu'ensuite tout a démarré. L'école, etc. Ça a commencé par une offense que Dieu a touchée. Et il a dit, ça, j'en veux plus. Ça, c'était la première, vraiment un épisode important. Et puis aussi, je me rappelle, lorsque j'ai d'autres offenses, avec Manuela, il y avait deux couples qui démarraient l'église Pierre Vivante. On était le troisième, ils priaient pour un troisième couple à Mulhouse, il y a longtemps. Et donc, on savait ce que c'est d'aller de salle en salle. Et avec Manuela, on avait une petite 4L, et puis on portait la sono. C'est des grosses. Elle était enceinte. Hein, alors la sono, tout. Hein. Alors tous les dimanches et les réunions de semaine, on avait à peu près. Il fallait descendre du deuxième étage, des grosses baffes pivi là, et qui sont encore à l'école d'ailleurs. Et puis alors, il fallait monter tout ça et ensuite après le culte tout enlever, tout ressortir pendant des années. Quand Josué a commencé, pendant des années, ça a recommencé. Je me rappelle un moment, j'ai dit, vraiment, je commence à en avoir marre. J'ai dit, Seigneur, j'en ai marre. Hein. Parce que on est tout seul à faire ça, on a quatre mômes, il y en a qui n'ont même pas de mômes, ils ne sont même pas foutus d'aider. Vraiment, je commence à être mal. Et là, ça a été immédiat, une réponse de Dieu. Si tu râles, je me suis arrêté. Si tu râles, je ne peux pas me servir de toi. Et pourtant, c'était juste de quelque part entre eux de dire, écoutez, c'est pas normal qu'on fasse tout, quoi, mince. Et Dieu m'a dit, si tu sers dans cette condition, je ne peux pas t'utiliser. Et alors là, j'étais arrêté et j'ai dit, ben merci Seigneur, ça me fait un peu d'exercice au fond. Et puis du coup, à l'école, c'était pareil. Donc voyez, les offenses, Dieu nous regarde. Il y a des tas de situations, on a peut-être 100 fois raison, mais on n'a jamais de raison de réagir comme ça. On n'a jamais raison. Tu crois que tu as raison, mais tu as toujours tort de réagir avec amertume, avec critique, etc. Et ça, c'est vraiment important. Et puis, je me rappelle un autre point, j'étais offensé quelque part pour les hommes d'affaires du plein évangile et à Mulhouse, et puis mon boss là dans l'école, celui qui s'occupe des cours de religion, nous dit maintenant il faut choisir, hein, c'est où ces hommes d'affaires du plein évangile, et tu lâches ton travail, hein. Et moi je dis, mais quand même Seigneur, on lâche tout, on n'a pas accepté des propositions d'emploi et on doit lâcher maintenant, je suis prêt à perdre mon boulot à cause de l'évangile, c'est pas possible ça. Et vraiment, et parfois on est offensé par Dieu. On croit que c'est Dieu qui, voyez, on lui en veut, quoi. Et ça, c'est pareil, c'est une offense. Et ça nous arrête sur le chemin. Donc, voyez, on a vraiment... le piège de l'offense peut nous faire arrêter sur notre route. Et souvent, quand nous sommes offensés, nous nous considérons comme des victimes. C'est toujours pareil, on se considère comme des victimes. Et on blâme ceux qui nous ont fait du mal ou ceux qui n'ont pas fait ce qu'ils devraient faire. C'est toujours pareil. Parfois, il n'y a personne qui n'a rien fait de mal, mais ils n'ont pas fait ce qu'on attendait. Alors on est offensé. Et alors on justifie comme ça un peu notre amertume, tout ça. Mais Dieu dit, Jésus dit, je te conseille d'acheter chez moi de l'or. De l'or. Je te conseille d'acheter aussi du collyr pour oindre tes yeux afin que tu vois, Apocalypse 3, 18. Et dans Proverbe 18, et c'est le verset qu'il faut retenir ce matin, Proverbe 18, 19, un frère offensé est pire qu'une ville forte et les querelles sont comme des verrous d'un donjon. Un frère offensé est comme une ville forte. Quand on est blessé, on bâtit des murs, on veut se protéger de toute blessure nouvelle. On refuse l'accès à nos cœurs des autres et parce qu'on considère que c'est eux qui ont des dettes envers nous. Voyez. Et alors, on ouvre les yeux, on s'ouvre qu'à ceux qu'on considère de notre côté. Et ceux qu'on considère de notre côté, c'est ceux qui sont offensés comme nous aussi, la plupart du temps. Hein. Donc voilà, et alors, donc on commence à se centrer sur soi. Et un jour, sans qu'on le sache comment, ces murs, eh bien, ils deviennent quoi? Ils deviennent une prison. Ils deviennent une prison. Et on s'efforce de protéger nos droits, nos relations. On est toujours dans la défense, voyez. Et ça, c'est quelque chose de terrible. Si nous ne prenons pas le risque d'avoir mal, si on ne prend pas le risque d'avoir mal, on ne peut pas donner l'amour autour de nous. Si on ne prend pas le risque d'avoir mal, on ne peut pas donner l'amour. Ça veut dire que, Seigneur, viens abattre. Tout à l'heure, il y avait les paroles pendant la louange. Dieu abattait des murs. Les murs qui sont faits par l'offense sont des murs qui sont très solides. Et Dieu lui dit, voilà, comprends ça. Le mur. Alors, les loups, souvent, ils attaquent. Les personnes offensées, qu'est-ce qui se passe? En général, on sort du centre. On sort du centre. Tac. On commence à aller sur la périphérie. Et ensuite, les loups, ils sont sur la périphérie. Un jour, on priait au collège Daniel tous les matins, là. Et puis, il y a quelqu'un qui est venu de l'extérieur. Il a dit, j'ai vu un feu le matin. Et les loups qui dégageaient. Qu'est-ce que vous faites dans cette salle le matin? Et puis on dit, c'est la salle où on prie. Et donc le feu éloigne les loups. Mais l'offense fait qu'on s'éloigne du feu. Et on s'éloigne du feu central. Et alors là, il y en a un qui attend. Il peut attendre 1 an, 2 ans, 10 ans. Mais le jour où tu es tout seul et tu es loin du feu, alors là, il te prend et il te loupe pas. Donc vraiment, on a besoin de comprendre qu'un frère offensé, ça peut être nous-mêmes, et pire, qu'une ville forte. Voyez. Donc comment on reconnaît l'offense? Eh bien, au fruit, donc. Et ces loups diront aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre, ce qu'ils ont besoin d'entendre, pour alimenter l'offense. C'est pareil. L'offensé qui chérit son offense, il va chercher à la nourrir avec des tas de choses, peut-être tout à fait vraies, des faits tout à fait justes, tout à fait réels. Mais si ça alimente l'offense, eh bien, on est loin du compte. Alors, et j'aimerais illustrer tout ça avec l'histoire de Joseph. Genèse chapitre 37 à 48. Vous connaissez, il a été riche des promesses de Dieu. Il a vu des rêves, il a vu ses frères se prosterner devant lui, l'étoile et le soleil, etc. Ça les a fâchés. Même son père, il a dit, tu crois que c'est nous qui allons nous prosterner devant toi un jour? Et puis, ses frères se sont énervés avec ce rêveur-là. C'est toujours ce rêveur qui se croit au-dessus des autres. Et souvent, quand on a des rêves de Dieu et qu'on commence notre vie chrétienne, eh bien, ça peut agacer certains. Qui vont dire, c'est quoi tes rêves? C'est quoi tes rêves? Moi, parfois, j'entends, c'est quoi? Église prophétique, ça nous fait bien marrer. Tiens, ça nous fait... Qu'est-ce que vous faites au fond? Hein, etc. Vous voyez, ce genre de trucs-là. Hein. Donc, tes rêves, garde-les pour toi. Le réveil en France. Moi, une fois, un pasteur, devant toute une pastorale, il a dit, c'est une carotte pour faire marcher les gens. Mais on n'y croit pas, au réveil. Alors là, je peux vous dire, c'est vraiment... Ça, c'est le genre de truc... Vous avez les pompiers qui éteignent les rêves. C'est leur ministère. Ils détectent les rêves et paf, ils y vont, ils éteignent. Les frères de Joseph, ils ont voulu éteindre les rêves. Ils ont voulu éteindre ces rêves. Alors, juste vous rappeler, donc, il a été mis dans une citerne, vendu comme esclave. Et puis, imaginez ce qu'il a pu... Honnêtement, il a travaillé comme esclave dans la maison de Potiphar. Et puis sa femme, la femme de cet homme, a voulu le séduire, il l'a refusé, paf, il se retrouve dans un cachot. Tu vois, imaginez les pensées. Alors moi j'ai noté quelques-unes. J'ai servi mon maître honnêtement avec intégrité pendant 10 ans. J'ai été fidèle, je suis resté fidèle à Dieu. Et quelle récompense? Dans un cachot. Hein? Comment Dieu peut-il permettre ça? Mes frères peuvent-ils aussi voler la promesse que Dieu m'a faite? Dieu m'a fait des promesses, mes frères, ils ont volé ce que Dieu m'a donné. Et parfois, on a un appel de Dieu, et au lieu de prendre sa responsabilité, on va dire, ah ben si je ne peux pas le remplir, c'est à cause des autres. C'est à cause des autres, ils n'ont pas compris mon appel. Ou alors ceci, cela. Et attention, c'est pas juste, hein. Mes frères peuvent-ils aussi voler les promesses de Dieu m'a faites? Pourquoi ce Dieu d'alliance puissant n'est-il pas intervenu en ma faveur? Est-ce ainsi qu'un Dieu fidèle et aimant s'occupe de ses enfants? Pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? C'est des trucs classiques, hein. Et il disposait que d'une liberté très limitée, Joseph, dans la prison. Mais de quelle liberté il disposait encore? Réfléchissons. Il avait la liberté de sa réaction. Il avait la liberté de sa réaction aux offenses. Ça, c'est être libre. Et Joseph, il a réagi selon Dieu à l'offense. Et la question, c'était, est-ce qu'il va devenir offensé amer envers ses frères et envers Dieu? Est-ce qu'il va perdre tout espoir d'accomplir la promesse? Et en fait, ses frères ont été des instruments habilement manié par la main même de Dieu. Ses frères qui l'ont mis en prison, dans la citerne, ses frères qui l'ont vendu, ils étaient la main de Dieu. Ses frères qui l'ont offensé, ils étaient la main même de Dieu pour accomplir un projet. Et voyez combien de fois, alors pour Joseph, pendant sûrement un temps, ses frères, c'était les responsables de l'état où il était. Et combien de fois on a entendu nos frères, nos sœurs tomber dans le piège de rendre quelqu'un d'autre responsable. Ah, s'il n'y avait pas ma femme, je serais dans le ministère depuis longtemps. J'ai entendu ça déjà. Hein. S'il n'y avait pas ma femme, mais alors, elle ne veut pas suivre, donc ce n'est pas possible. Hein. Et puis alors, si je n'avais pas eu mes parents, comme ça, qui ont été vraiment méchants, j'aurais une vie normale. Hein. Ou alors, si ce n'est pas mon pasteur qui a refoulé ce don en moi, ben il y a longtemps que je serais libre et sans entrave. Si on s'était un peu plus occupé de moi, ben j'en serais pas là aujourd'hui. Hein. Mince alors. Si j'avais un peu plus d'aide, j'en serais pas là. J'aurais pu accomplir ma vision s'ils avaient au moins daigné m'aider, etc., etc. La liste est sans fin. Et vous savez, alors on ne pense que notre déception et nos blessures, on la met sur la faute des autres. Alors, il n'y a absolument aucun homme, et retenez cette pensée, il n'y a aucun homme, aucune femme, aucun enfant, aucun diable qui puisse nous soustraire à la volonté de Dieu. Personne ne peut te soustraire à la volonté de Dieu. Personne. Et il n'y a que Dieu et personne d'autre qui tienne notre destinée dans les mains. Alors les frères de Joseph, ils ont essayé dur comme fer de détruire la vision que Dieu lui avait donnée. Regardez Genèse 37, 20, un verset étonnant. « Venez maintenant, tuons-le, jetons-le dans des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré, écoutez ça maintenant, et nous verrons ce que deviendront ses rêves. » Et nous verrons ce que deviendront ses rêves. Eh bien parfois, dans la citerne, eh bien, les rêves, on les laisse tomber. Et le Seigneur voudrait, ce matin, il a dit, je ravive les rêves. Et vraiment, je pense que ce qu'on dit ce matin est une clé pour faire tomber des murs de la parole prophétique qui a été donnée tout à l'heure, de différentes manières. Donc Dieu, nous pensons que lorsqu'il vendit Joseph comme esclave, imaginez Dieu, on imagine parfois Dieu comme ça. Il regarde le Saint-Esprit et puis il dit... qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Le plan de Dieu, c'était Joseph. Et maintenant, ça y est, il est vendu. Qu'est-ce qu'on va faire? Ils ont ruiné mon plan. Alors, il faut vite qu'on trouve une solution. Qui c'est qui a un plan de rechange, là? Parfois, on pense que Dieu, il est comme ça. Hein. Alors, parfois, on réagit aux situations de crise comme si ça se passait comme ça dans les cieux. Alors, le Père qui dit à Jésus, un tel s'est fait licencier parce qu'un collègue croyant a menti à son sujet, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que tu as des postes disponibles pour lui? Ou Nadine n'est toujours pas mariée. As-tu quelques personnes disponibles pour elle? Et l'homme que je voulais qu'elle épouse, il s'est marié à sa meilleure amie. Il faut absolument faire quelque chose. Et on pense que Dieu, il agit comme ça. Excuse-moi, Nadine. Mais c'était plus fort. Hein. Voilà. Alors, imaginons le Joseph du 21e siècle. Eh bien, il se consolerait peut-être avec ce genre de paroles. Quand je me mettrai ma main sur ses frères, sur mes frères, je les tuerai, je vais les faire payer. Et puis il est là, il prendra des plans pas possibles. Écoutez maintenant, si Joseph avait réellement eu cette attitude de faire payer ses frères, d'offenser, hein, Dieu l'aurait laissé pourrir dans son cachot. Pourquoi ? Parce que s'il était sorti de prison avec de telles intentions, il aurait tué les chefs des 10 des 12 tribus d'Israël, ce qui aurait inclus Judas et donc la lignée du Christ. Le Christ descendait de Judas. Hein. Ceux qui ont traité Joseph avec tant de méchanceté, c'était les patriarches d'Israël. Dieu avait promis à Abraham qu'il susciterait une nation, c'est par leur intermédiaire que Jésus viendrait un jour. Vous vous rendez compte ? Et Joseph a demeuré affranchi de l'offense et le plan de Dieu a été établi dans sa vie et dans la vie de ses frères. Ça, c'est extraordinaire. La prison de Joseph, et on termine bientôt, a été une période de tamissage, mais aussi d'opportunité. Et vous savez, il interprétait les rêves. Et il y a un jour, il y a deux serviteurs du roi, deux officiers qui sont dans la prison, disgraciés, et ils ont un rêve, et Joseph l'a interprété, il a dit, mais toi, voilà, tu seras gracié, et toi, dans 3 jours, tu seras condamné. Mais quand tu seras gracié, toi, rappelle-toi de moi. Eh bien, ce gars, il a été gracié par le roi, comme c'était prévu. Et puis il a oublié Joseph. Encore une fois, non seulement ses frères ont été méchants, non seulement il a été vendu, non seulement il a été trahi, mais quelqu'un lui a promis de le libérer. Et puis il a attendu 2 ans, il a oublié sa promesse. Vraiment, il y a de quoi être offensé. 2 ans où la déception aurait pu le briser. Et la déception marche souvent avec l'offense. Hein. Et Pharaon a eu un rêve, vous connaissez, et Joseph a pu l'interpréter. Et Joseph est sorti de prison, premier ministre. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a donné le blé gratuitement à ses frères. Il leur a donné les meilleures terres d'Égypte à ses frères, pour leur famille qui vécurent grassement. Et Joseph a béni ceux qu'il avait maudits, faisant le bien à ceux qui le haïssaient, et pleurant sur l'épaule de ses frères, accordant un pardon depuis longtemps déjà donné. Et il dit à ses frères, ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Et voyez, aucun mortel, aucun diable ne peut supplanter le plan de Dieu dans notre vie. Si nous saisissons bien cette vérité, elle va nous libérer. Il y a une personne qui peut nous soustraire à la volonté de Dieu, jusqu'à un certain point. C'est nous-mêmes, quand on décide de rester enfermés dans nos offenses. Et je vous dis, c'est ce qui nous empêche de nous planter. Tout à l'heure, la vision du pot, Le pot, on est dans notre sécurité, tout ça. Mais Dieu, parfois, il dit, je te plante. Tu enlèves, sors de tes murs. Sors de la sécurité. La sécurité, ça peut être la sécurité dans ces murs d'offense. Hein. Et sors de ça. Et accepte de prendre le risque d'avoir mal. Parce que quand on marche avec des frères et sœurs, il y a un jour ou l'autre, ça fait mal parfois. Mais Dieu dit, prends le risque. Prends le risque. Voyez. Et ça, c'est la destinée de Joseph. Elle est pour nous tellement extraordinaire. Si on reste offensé, on ne fera qu'accomplir l'objectif de l'ennemi, qui est de nous soustraire à la volonté de Dieu. Mais si nous nous abstenons d'être offensés, alors on demeure dans la volonté de Dieu. Si nous offensons, on deviendra prisonnier de l'ennemi pour accomplir sa volonté à lui. Il faut choisir, il faut choisir. Il faut se rappeler que rien ne peut venir à notre encontre sans que le Seigneur lui-même en ait connaissance et avant que cela n'arrive. Et je termine par ce texte de Jacques, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, il fuira loin de vous, approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus, sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse, humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. On veut simplement prier. J'interviendrai d'autres fois sur le même sujet, mais on commence aujourd'hui. Eh bien Seigneur, simplement, on vient à toi. Et Seigneur, là où il y a des murs qu'on a bâtis pour pas avoir mal, parce qu'on a déjà eu mal dans le passé, et on voudrait pas que ça recommence. Et Seigneur, toi tu comprends cela, Seigneur. mais en même temps tu nous dis, fais tomber les murs. Alors Seigneur, ce matin, là où tu nous montres, nous décidons de pardonner et de lâcher nos frères et sœurs et les situations qui nous ont fait mal. Et Seigneur, nous voyons l'exemple de Joseph, nous voyons l'exemple de Jésus, et nous croyons que les circonstances que nous on pense négatives, eh bien toi tu les utilises pour tes plans. Il n'y a rien qui peut arrêter ton plan pour nos vies, Seigneur. Alors nous venons à toi et vraiment j'invoque ton nom, Seigneur, sur toute notre communauté en particulier, que nous apprenions à gérer l'offense et à ne pas nous en nourrir, mais à la lâcher. Merci Seigneur, fais cette grâce Seigneur, afin que les dons soient libérés, parce qu'ils sont trop souvent captifs à cause de l'offense. Seigneur, que maintenant les dons soient libérés, que les cœurs soient radoucis, que le feu vienne briser tout alliage malsain, et que l'or malléable, doux, glorieux, puisse être ce qui fait notre vie, et notre communauté, et notre témoignage. Au nom de Jésus, amen. J'aimerais juste dire que ce message